Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit viens, 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 viens. Éduquer, verbe transitif du latin éducare, former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A, préposition du latin ad, vers, aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, nom masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement aujourd'hui dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Voilà, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Dorian Herrera. Dorian m'a donné rendez-vous à la chapelle Saint-Ferréol, à Cré. Et je crois que nous allons aller sur son lieu de prédilection, les bords de Drôme. Youpi! Alors voilà, ça y est, j'ai retrouvé Dorian. Donc, nous arrivons sur les bords de la Drôme, comme promis. Bonjour Dorian.
Bonjour Magali. Un de mes endroits préférés au pied des Trois Becs. Et attention, attention.
Et nous l'attendions, et elle est là. Elle est là, c'est la Drôme, elle est magnifique. Il a bien plu ces derniers jours. Je vois que tu as un petit sécateur.
Ouais, j'emmène toujours. Il y a soit de quoi ramasser pour faire des tisanes, soit de quoi tresser. Ici, on pourrait ramasser du frêne par là. Bon, on est un peu en fin de saison quand même. Les feuilles sont lessivées, mais bon, il y a toujours des principes actifs. Le frêne est un excellent chasseur d'acide. Pour ceux qui souffrent de rhumatisme, d'arthrose, ça chasse l'acidité des articulations.
Les ronces aussi, c'est intéressant.
On en fait des super tisanes, les feuilles, on utilise les feuilles pour des angines, c'est la période, faire des tisanes contre les angines. Regarde, ils sont là-bas. Regarde ces beaux plants de thym. Oh, il est tout vert en plus. Voilà, il est tout vert parce qu'il a bien plu. Il n'a pas de fleurs parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les feuilles.
Alors, nous humons le thym.
Donc, excellente tisane antiseptique. Voilà,
Alors, je viens ici ramasser mon thym et en hiver, je viens ramasser des rameaux de saule pour faire de la vannerie sauvage. Voilà.
Super.
C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Puis l'été, j'aime baigner. J'ai fait un cursus à l'École des plantes de Paris par correspondance. Et c'est un cursus qui est formidable parce que c'est un double cursus plantes et santé. Et ça me permet vraiment aujourd'hui de ramasser mes plantes en toute sécurité, de fabriquer des tisanes sur mesure et puis de faire des pommades. Voilà, des pommades, des choses qui vont soigner. Voilà. Et à travers ce projet, je suis bénévole dans une autre association qui est l'AFC, c'est l'Association française des cueilleurs de plantes sauvages. Et je fais de la relecture de livrets de cueillettes. Parce qu'on ne ramasse pas n'importe comment dans la nature, évidemment. Il faut bien préserver la ressource pour qu'on en ait l'année d'après. On ne parle pas des générations futures, là, on parle des générations de l'année d'après. Donc, je suis diplômée de l'université de Paul Sabatier à Toulouse, écologue de formation. Donc, je suis scientifique à la base et j'ai toujours travaillé par le biais de cette spécialité dans l'éducation à l'environnement et au développement durable.
Qu'est-ce qui t'a amenée à ça ?
Mon éducation. Ma famille, le choix de vie... De vie à la campagne depuis que je suis toute petite, et puis une colline sur laquelle j'ai poussé qui s'appelle la Fontaine aux Lièvres, que j'ai quittée quand j'avais 12-13 ans et puis que j'ai retrouvée avec mes yeux d'écologue à 28 ans. Alors c'était marrant parce que c'était mon terrain de jeu enfant, on fabriquait des cabanes, on allait se promener seul même à plusieurs kilomètres de la maison. Et puis c'est devenu ensuite mon laboratoire grandeur nature sur lequel j'ai créé Seconde Nature en 2008. Oui, une association de promotion de l'écologie scientifique. Et on a fait de l'éducation à l'environnement pendant une bonne dizaine d'années. Je dis « on » parce qu'on était évidemment plusieurs, on était une association. L'association existe toujours. Mais le volet animation auprès du public, donc animation... Atelier pédagogique, balade pédagogique, création de sentiers nature d'interprétation, plein d'activités qu'on a faites comme ça pendant une dizaine d'années. On a mis au repos le volet animation, mais on a conservé le volet études qui continue à valoriser la biodiversité de la Fontaine aux Lièvres, donc ce site situé en Seine-et-Marne.
Alors Doriane, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu ton association ? Tu navigues un peu en étoile au national, mais tu es présente au réseau Dromois d'éducation à l'environnement. Alors est-ce que tu peux nous situer ? Comment tu brasses ? Qu'est-ce que tu brasses dans la Drôme, à part le thym ?
Et à part l'eau de la Drôme que oui. Je brasse. J'ai atterri en Drôme en 2017. Je crée ensuite InVivo, donc qui est une entreprise individuelle, qui est une extension finalement de Seconde Nature, une extension légère, une sorte d'électron libre qui permet de faire plus facilement les projets, de signer plus facilement des contrats, de rejoindre une équipe plus facilement qu'une association. Mais Seconde Nature existe toujours. Seconde Nature, c'est la racine, c'est le chevelu, c'est la charpente de mes actions en éducation à l'environnement. Et puis ensuite, InVivo, voilà, c'est plus moi, c'est plus Doriane Herrera qui vient de temps en temps rejoindre une équipe, donner un petit peu d'énergie à une équipe, quelle qu'elle soit, peu importe. Alors pourquoi le réseau Dromois ? La première chose que je fais quand j'arrive dans un endroit, c'est que je contacte les réseaux d'éducation à l'environnement. Alors quand j'ai un réseau régional, je favorise le réseau régional parce qu'en général ils sont plus costauds. Alors les réseaux régionaux en EDD, ce sont les graines pour groupement régional d'animation et d'initiation pour la nature et l'environnement. Et en Drôme, eh bien, j'ai eu la chance de tomber sur un réseau Drômois d'éducation environnement, donc comme son nom l'indique, départemental.
Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, chouette, je vais pouvoir être un échelon plus petit qu'un réseau régional. Ça, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai rencontré le réseau Dromois à l'occasion d'une assemblée générale du GREN Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce réseau d'éducation à l'environnement Dromois, eh bien, je suis rentrée dans cette association en tant qu'individuelle en 2017. J'ai tout de suite été séduite par un petit groupe de travail sur la co-formation. Voilà, donc au sein de cette commission de travail avec Maximilien, Blandine, Edith et Carole, on propose 3-4 fois par an des rendez-vous qu'on intitule ce sont des co-formations. Et ces journées visent en fait à proposer des apprentissages sur des thématiques qui correspondent à des besoins du réseau. Donc ça va de formation sur des thématiques en particulier, je pense à la géologie, je pense à l'entomologie, donc l'étude des insectes. Donc ce sont des sujets comme ça, on va dire, propres à l'éducation à l'environnement. Et puis ensuite, on va avoir des sujets un peu plus transversaux, comme bien les outils numériques, comment on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui, sans tomber dans le panneau de ces médias. Ça peut aussi être la formation premier secours, PSC1. Chacun, soit dans nos structures, soit dans nos... Parce que la Drôme, c'est très grand, donc c'est très grand. On est tous un peu éloignés, même si on est sur le même département. Et c'est une joie à chaque fois de se retrouver, que ce soit par téléphone ou physiquement chez les uns, chez les autres. C'est un vrai plaisir. On s'aime beaucoup et ça, c'est super important. Souvent coutume de dire que l'éducation environnement, c'est une discipline, bon on le sait, hein, qui permet de comprendre le lien entre l'homme et la nature. Alors c'est pas seulement de se poser les questions pourquoi, c'est surtout de répondre aux questions pourquoi protéger la biodiversité, pourquoi ne pas jeter n'importe quoi dans son évier, pourquoi est-ce si important de trier ses déchets. Alors ça peut paraître des sujets très classiques et tellement évidents. Mais nous, éducateurs à l'environnement, on répond au comment on fait. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on est plein de contradictions, on a plein d'objectifs, on a plein de contraintes économiques, sociales, psychologiques. Et c'est extrêmement compliqué finalement de donner le geste éco-responsable qui va bien à la personne qu'on a en face. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous faites comme vous pouvez. Moi, je vous explique comment ça marche. Par exemple, je vous explique comment un composteur fonctionne. Et puis après, vous vous débrouillez avec ce que vous avez chez vous, votre porte-monnaie. Vous savez à peu près ce qu'il faut mettre dans le composteur, parce que moi, à l'écologue, je vais vous expliquer la chaîne alimentaire du sol. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous vous débrouillez tout seul, parce que c'est pas moi qui serai toujours derrière dans votre cuisine. Donc, Seconde Nature, ça a été vraiment la grosse structure qui m'a permis de monter des projets de A à Z, monter des équipes, aller chercher des subventions, faire ces animations, faire de la communication autour de tout ça parce que c'est crucial. J'ai quitté la Seine-et-Marne, j'ai exploré d'autres structures associatives, hein, parce qu'on passe notre vie à aller chercher des financements alors qu'on est des structures d'intérêt général et qu'on est à but non lucratif, c'est certain, mais on n'est pas censé le mettre de notre poche et être déficitaire chaque année. Et puis j'ai voulu être plus légère avec InVivo. Donc aujourd'hui, InVivo, ça me permet, comme je le disais, de donner de l'énergie dans des équipes. Depuis 2 ans, je donne de l'énergie à l'équipe
donc, qui a créé la nouvelle licence professionnelle qui s'intitule Transition agroécologique des territoires. Donc, c'est une licence qui se réalise par la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est formidable parce que les étudiants sur l'échelle d'un mois vont passer 3 semaines en entreprise et ils vont faire 1 semaine en cours. Voilà. Alors cette licence pro, l'idée vient de la maison familiale rurale de Haut-Vaucluse, donc à Bolène. Cette maison familiale rurale particulièrement dynamique a eu l'idée d'aller proposer la formation à l'université d'Avignon qui a accepté de suivre la création de ce diplôme. Et donc aujourd'hui, c'est une licence qui est coportée par la maison familiale rurale de Bolène et l'université d'Avignon. Donc ça fait une équipe qui est très très dynamique, qui fait un boulot incroyable avec une interconnexion de chercheurs et de professionnels de l'agroécologie. Voilà, donc moi je suis enseignante au sein de cette licence et je suis tutrice universitaire. Donc sur des unités d'enseignement telles que l'écologie, les outils de communication, la gestion de projet. Et je suis responsable d'un projet tutoré qui a un lieu dans la Drôme, mais on en parlera un petit peu après.
Un peu de mystère. Alors Doriane, tu parles de la difficulté d'éduquer, d'orienter des actes écologiques dans ta transmission. Est-ce que... suite à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, hein, il apparaît que c'est comme si les prises de conscience à différents niveaux prenaient une forme d'accélération. Dans ton travail, comment tu le perçois, cette accélération d'une nécessité au changement ? Comment ça impacte ton travail, ton discours ?
Ça n'impacte pas parce que j'étais déjà dans des projets qui étaient déjà... Finalement, la crise sanitaire n'a fait que ouvrir les yeux à plein de gens qui les avaient pas encore ouverts. Et ça, c'est formidable parce que ça fait accélérer les prises de conscience. Je suis d'un naturel positif et je pense qu'on va s'en sortir. Et surtout, moi, ce que je vois depuis des années, c'est que la transition écologique, elle est déjà en cours. Donc qu'il y a plein de choses qui sont concrètes. Parlons 2 secondes de l'agroécologie. L'agroécologie, il y a énormément d'agriculteurs qui aujourd'hui pratiquent une production agricole respectueuse de l'environnement. Et on n'a pas attendu le coronavirus pour changer notre manière de fonctionner. L'année dernière, qu'est-ce qui a changé pour nos étudiants ? Alors, ceux qui travaillaient chez des agriculteurs, rien du tout. Ils ont continué à travailler et puis ils ont eu du travail par-dessus la tête puisque les frontières ont été fermées et qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre européenne qui vient chaque année. Donc, nos étudiants étaient rincés, épuisés parce qu'ils devaient travailler au champ plus... suivre les enseignements, puis les rapports d'alternance, les projets tutorés, etc. Donc, si, ce qu'il y a, c'est que cette année, au lieu d'avoir 18 étudiants, on en a 30 parce que l'État a encouragé la formation par alternance, parce qu'il y a eu des aides très, très importantes auprès des entreprises. Donc, ça nous a rempli notre formation. Maintenant, ce que je vois, c'est que les gens sont fatigués. Moi, la première, c'est vrai que l'actualité est extrêmement stressante. Ça me paraît tellement évident, tout ce qui se passe. Alors après, je suis positive, je reste positive, parce que je me dis, l'éducation environnement est dans les programmes scolaires depuis 2005. Il y a eu plusieurs circulaires de l'éducation nationale qui sont passées, qui permet de montrer que l'éducation environnement fait partie des socles de base pour tous nos écoliers français. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire sans doute encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que les éducateurs à l'environnement sont vraiment battus pendant plein d'années pour que ces programmes scolaires soient enrichis de cette éducation à l'environnement, qui est une éducation de société. Moi, je ne comprends pas encore qu'on doive en faire une discipline. elle est censée être partout. Voilà. Je pense que plein de gens en font sans le savoir, et puis il y a de plus en plus de gens qui sont, plein de gens qui sont convaincus. Moi, ma spécialité, c'est plutôt la biodiversité. C'est vrai que j'hallucine encore qu'on détruise autant toutes ces chaînes alimentaires, qu'on ne voit pas la beauté de nos oiseaux, de nos petits insectes, etc. Bon, voilà. Les gens ont peur de la nature. Bon, je peux comprendre, j'ai vécu en Guyane, qu'on ait peur de la nature en Guyane, je peux comprendre. Mais alors en France, franchement, France métropolitaine, pardon, non, on ne peut pas avoir peur de la nature. La Drôme qui est un département, alors en termes de surface, je crois que c'est le premier département bio en France. Je pense aussi à Biovallée parce qu'on travaille avec l'association Biovallée, donc au sein de la licence pro, la transition agroécologie des territoires. On travaille avec Biovallée sur l'inventaire de pratiques innovantes en agroécologie, donc sur le territoire de la vallée de la Drôme. Et on se rend compte qu'il y a des agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie, mais depuis des dizaines d'années, et qui ne s'étaient jamais arrêtés. Alors c'est très très vaste, hein, l'inventaire regroupe énormément de pratiques. Meilleure gestion de l'eau, gestion des énergies, mais aussi dans l'organisation sociale, socio-économique de l'entreprise. Voilà, il y a plein de choses qui sont testées ici, encore une fois, sans faire de bruit, sans en raconter des tonnes, des gens qui font leur job au quotidien et qui ne se la racontent pas. Voilà. Et l'année prochaine, on continue sur cet inventaire, donc ça va être formidable. On va pouvoir continuer à raconter qu'il y a plein de gens qui font plein de choses super bien ici et qui testent et sans encore une fois trop de moyens et qui sont déjà dans la transition agroécologique. Ils l'ont déjà faite, eux. L'agroécologie, ça date de 2012 et c'est Le Foll, ministre de l'Agriculture à l'époque, qui a lancé ces 12 clés de l'agroécologie.
Est-ce que tu nous ferais vivre un petit instant avec ton âme, ta qualité d'écologue ?
Bah, je peux vous parler de la ripisylve. La ripisylve, alors c'est un mot qui n'est pas si compliqué que ça. Si on décortique, sylve, tout le monde connaît sylve, la forêt. Et ripa, c'est la rive. Donc c'est la forêt de bord de rive. Et cette ripisylve, c'est un écosystème tout à fait particulier. Écosystème, c'est une association c'est l'association d'un biotope, un milieu qui va correspondre à un habitat, et donc un biotope et une biocénose. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qu'on va trouver sur cet habitat, dans cet habitat. Et ben, l'écosystème ripisylve, comme on peut le voir sous nos yeux, on va trouver des arbres qui vont aimer être au bord de la rive. Ils ne sont pas là par hasard. Ils aiment avoir les pieds dans l'eau, je pense au saule. L'aulne glutineux qui va adorer avoir les racines dans l'eau. On raconte que c'est un arbre qui saigne quand on le coupe, puisque sa sève s'oxyde très rapidement à l'air et devient rouge. Peuplier évidemment, ça c'était plutôt les arbres. On va voir des arbustes comme le cornouiller, le noisetier, arbrisseau. Rosa canina, l'églantier, dont on a parlé un peu tout à l'heure avec Cécile Rodon. Et puis voilà, ces arbres, ils vont être adaptés à l'eau. C'est-à-dire que quand l'eau monte, ils sont souples et ils supportent l'énergie du courant. Ils ne cassent pas, ils sont souples. D'ailleurs, ils cassent l'énergie du courant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui sont en dessous, puisque ces arbres vont dissiper l'énergie du courant et éviter qu'il y ait des dégâts en contrebas. Ces arbres vont supporter aussi des sécheresses parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la Drôme elle n'est pas toujours aussi haute, elle peut être très 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 basse, un petit filet d'eau cet été si je me souviens bien, les canoës ne passaient même plus, Donc ces arbres, ils supportent la sécheresse parce qu'ils ont des racines qui vont très profondément chercher l'eau en sous-sol et ils sont toujours là, ils ne meurent pas. Voilà. Et puis par moment, on va trouver des arbres qui vont avoir des racines qui vont permettre de créer des habitats pour les poissons. Ce sont des vraies nurseries, des vraies crèches là-dedans, puisque les petits poissons vont se protéger de leurs prédateurs, et puis de la chaleur, et puis voilà, prédateurs qui vont avoir dans l'eau, mais aussi dans l'air. Parce qu'on peut imaginer qu'un simple plongeur vienne happer le petit poisson. Voilà. Et puis évidemment, cette répulsive, bah, nous, baigneurs, on adore se protéger grâce à son feuillage l'été. Voilà. Et puis après, bah, la vanière qui viendra l'hiver cueillir quelques rameaux d'osier, en faisant attention à ne pas trop abîmer le petit arbre têtard qui se forme dessous.
Et je l'imagine tout à fait vanner son petit panier pour y déposer ce qu'elle aura glané.
T'as tout compris. La boucle est bouclée.
Merci beaucoup, Doriane Herrera. Merci beaucoup pour cette rencontre au bord de la Drôme.
Merci, Magali.
Les pieds plantés dans
C'était l'ADN, émission pour le réseau Dromois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.